20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 23 juin 2016. Les Britanniques disent oui au Brexit et votent à 51,9% pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cela fait des mois que les Britanniques sont divisés en deux camps. Ceux qui souhaitent rester dans l'Union européenne et ceux qui à tout prix veulent en sortir. Manifestations, meetings politiques, débats télévisés, fake news, tout est bon pour essayer d'influencer les indécis. Depuis plusieurs mois, un seul mot est au centre de toutes les attentions. On le prononce chaque jour à la télévision, à la radio, dans la rue, dans les discussions, entre amis et en famille. C'est un mot capable de faire monter la tension, de provoquer des débats et de se fâcher entre amis, de se diviser en famille et parfois même d'en venir aux mains. Un seul petit mot donc sur toutes les lèvres, Brexit. Alors aujourd'hui, plus de 30 millions de Britanniques se sont déplacés pour aller voter par référendum, comme leur avait promis le Premier ministre David Cameron. Et alors que les sondages donnent les partisans pro-Brexit perdants, à la surprise générale, ils sont 51,9% à se prononcer pour le oui. Douche froide pour l'Europe, victoire du Brexit. Chez les pro-Brexit, on fête la victoire jusqu'au bout de la nuit. Au matin du 24 janvier 2016, l'Union européenne se réveille amputée d'une partie d'elle-même. Et au Royaume-Uni, le 10 Downing Street va devoir se trouver un nouveau locataire, car le Premier ministre David Cameron, partisan du maintien dans l'Union européenne, annonce sa démission. Il est remplacé par une autre conservatrice du nom de Theresa May. C'est à elle que revient le lourd fardeau de la gestion du divorce. Car bien sûr, tout ne se fait pas dans la précipitation, parce qu'un divorce comme ça, eh bien ça se prépare. Ici, pas question de garde d'enfants, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, non. Mais de renégociations de traités, de polémiques sur les zones de pêche et j'en passe. Bref, un grand bazar qui va durer encore plusieurs années avant que les deux parties arrivent à un accord. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Eh oui, quand je vous dis qu'un tel divorce, ça se prépare. Nous sommes le 23 juin 2016 et après 43 ans de mariage tumultueux, la Grande-Bretagne se sépare de l'Union européenne. Bonsoir à tous, good evening everybody, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci à vous d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, on va vous parler d'un long et pénible divorce dont les dommages collatéraux sont légion et économiques. C'est le Brexit, contraction de British Exit, soit la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils étaient 30 millions de Britanniques à voter lors du référendum le 23 juin 2016. 51,9% d'entre eux ont voté pour. Un choc pour l'Union européenne. Il est 6h du matin, le 24 juin 2016 sur RTL.
Donc le Royaume-Uni est en route vers le Brexit. On va vous expliquer et suivre l'évolution de la situation. Vous avez eu les chiffres. Hein. Isabelle vous parlait de la participation à plus de 72%, ce qui est historique. Avec ce mouvement donc opposé au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne qui serait devant à 52%, 48% selon les médias britanniques actuellement, il y aurait un petit million de voix d'écart, ce qui est considérable.
Bonsoir François Langlais.
Bonsoir Flavie.
C'est quand même incroyable qu'on vous appelle vous pour parler du Brexit.
J'avais le nom pour.
Vous êtes effectivement éditorialiste économique à RTL et à TF1 et vous êtes auteur du livre Quoi qu'il en coûte aux éditions Albin Michel. C'est marrant parce que je vais reprendre le titre de votre livre pour résumer un petit peu cette situation, parce que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est un peu du quoi qu'il en coûte aussi, non?
C'est vrai. Et cela dit, les Anglais sont les Anglais. Hein, ils sont toujours particuliers. Et ça a été un choc à l'époque, cette journée du 23 juin, parce que ils rompaient le tabou ultime.
C'est quoi le tabou?
Ben, pour les continentaux, l'Europe, c'est la constitution absolue. C'est l'œuvre de civilisation d'après-guerre pour réconcilier les nations entre elles. Donc on n'imaginait pas qu'un pays puisse, de sa propre initiative, rompre ce contrat de long terme.
Alors on reviendra sur ce qui a motivé le Royaume-Uni. Mais avant de revenir sur le Brexit, je voudrais que vous nous expliquiez l'Union européenne. Comment ça fonctionne, ce truc-là?
En fait, tout part de la guerre, enfin des deux guerres, et puis au sortir de ces deux catastrophes, il y a une génération qui se dit plus jamais ça. Et autour du rapprochement franco-allemand se consolide d'abord un petit noyau avec le Benelux, l'Italie, puis après bien d'autres. Les cercles s'élargiront sans cesse au fil du temps, où on essaie de mettre en commun le plus de choses. On a commencé par l'économie. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le meilleur moyen de resserrer les liens entre les nations européennes, c'est de créer un grand marché, de supprimer tous les obstacles qui interdisait la circulation libre des personnes, des biens et des capitaux. Et c'est ce qu'on a commencé à faire dès les années 50 avec le traité de Rome, mais en réalité seulement dans les années 80 où ça a eu un début de traduction concrète.
Donc en fait l'idée c'est de réunir des nations pour former un continent très fort.
Oui. D'ailleurs je crois que, si ma mémoire est bonne, dans l'article 1 du traité de Rome, il y a la référence à une union toujours plus étroite.
Okay.
C'est-à-dire, les pionniers avaient probablement dans l'idée de créer les États-Unis d'Europe. Ouais. C'était une idée d'ailleurs qui avait cours entre les deux guerres, même avant 14, chez certains esprits éclairés. Bon, puis après, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué et qu'il valait mieux maintenir les pays, mais mutualiser, mettre en commun tout un tas de choses. La première des choses à faire, qui a occupé des années de réglementation et d'efforts, c'était de supprimer les frontières à l'intérieur de l'Europe. C'est ça d'abord l'Europe. Et puis petit à petit, des politiques communes se sont construites pour l'agriculture, pour la politique extérieure, pour l'énergie. Et on a rajouté des couches successives comme ça au fil du temps, entre 1985 jusqu'à nos jours.
Mais est-ce que les pays dans ce cas-là sont devenus économiquement plus forts ? Parce que comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut s'entraider dans l'Union européenne ? Je pense au cas de la Grèce, par exemple. Est-ce qu'il faut... Quels sont les devoirs des pays les uns vis-à-vis des autres ? Est-ce que ça a servi certains pays et desservi d'autres ?
Oui, bien sûr. Je pense que ce qui a été déterminant, c'est l'adoption d'une monnaie unique. Ça a été là une étape supplémentaire dans l'intégration.
Vous avez reçu pour parler de l'euro dans cette émission.
C'était il y a 20 ans exactement. Donc au sein de l'euro, c'est vrai qu'il y a des gagnants et des perdants. Des pays qui, finalement, c'est mon sentiment, d'autres observateurs de l'économie vous diraient le contraire, mais toute l'Europe du Sud est plutôt en difficulté avec une monnaie qui est trop forte compte tenu de son niveau de compétitivité. Mais globalement, ils ont eu aussi d'autres avantages, des transferts financiers venant du Nord. Mmh. Et donc, on considère que si on prend l'ensemble des chapitres, on a pu gagner sur certains points et perdre sur d'autres.
D'accord. Le Royaume-Uni, il n'est pas arrivé tout de suite dans l'Union européenne. Il paraît que le général de Gaulle rechignait à les faire venir.
Oui, oui, vous savez, c'est drôle d'ailleurs dans ses mémoires. Au moment où il quitte Londres, il rencontre Churchill pour la dernière fois. Il lui dit, voilà, je m'en vais, je rentre en France. Et ils ont une conversation assez longue que de Gaulle rapporte en disant, voilà, après bien des discussions, Monsieur Churchill et moi sommes convenus d'une chose profonde. L'Angleterre est une île, l'Amérique un autre monde, et la France, le cap d'un continent. Tout est là. Mmh. L'Angleterre, c'est une île. Et effectivement, elle est en interaction économique très étroite avec nous, mais c'est une île.
Il n'y a pas de frontières, en fait. Il n'y a que des frontières maritimes. Quoi.
Oui, mais c'est une frontière naturelle qui est d'autant plus forte qu'elle est naturelle, justement, et que finalement, ça a nourri une forme de particularisme qui fait que les Anglais ne se décident qu'au milieu des années 70.
C'est ça.
Et d'ailleurs, certains pays européens ne sont pas forcément contents de l'accueillir, parce qu'ils se disent, non sans raison, ça va être le bazar avec les Anglais.
D'accord, effectivement, ça l'a été même au niveau de la sortie. François Langlais, on parle d'une stupeur lorsque l'on a appris effectivement que le Royaume-Uni avait voté majoritairement pour le Brexit. Ça n'a pas été votre cas ?
Non, je voyais monter ça depuis un moment et c'est d'ailleurs drôle parce qu'on voyait finalement des deux côtés de l'Atlantique des phénomènes très comparables se dérouler au même moment. Aux États-Unis, il y avait Trump et au Royaume-Uni, le Brexit. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est le désir, le slogan du Brexit, c'était « Take control back », reprendre le contrôle. Les deux peuples avaient le sentiment que la mondialisation les avait ballottés, qu'ils n'avaient plus barre sur leur avenir et qu'il fallait justement rétablir les frontières pour retrouver de la souveraineté. C'est un thème qui aujourd'hui, même en Europe, est très important. Mais le monde anglo-saxon, dans l'histoire des idées politiques, est toujours un peu en avance. Et de ce point de vue, le Royaume-Uni et les États-Unis nous ont montré un petit peu la voie sous une forme caricaturale, quelquefois grossière, quelquefois agressive, mais le fondement de ça, c'était le désir de souveraineté.
En tout cas, c'est le 23 juin 2016 que les Britanniques sont appelés donc à voter pour ou contre le Brexit. Les résultats définitifs sont confirmés le lendemain. Tremblement de terre au 10 Downing Street. Le Premier ministre David Cameron va présenter sa démission. Ça a été un moment difficile pour lui.
Oui, parce qu'il a fait un calcul politique stupide.
Ouais.
Et il avait déclenché ce référendum pour essayer de se sauver face à une majorité qui était divisée entre les eurosceptiques et ceux qui étaient favorables à l'Europe. Et finalement, il s'est pris l'élastique dans la figure. Donc, il a fait un très mauvais calcul et ça lui a coûté son poste.
Et c'est Theresa May qui va lui succéder.
Oui.
Et là commence pour Theresa un long, mais long chemin de croix que l'on vous explique ce soir dans Jour J. On se retrouve dans un instant avec François Langlais sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Depuis le 1er janvier 2021, l'Union européenne, anciennement Communauté économique européenne, ne compte plus 28 pays membres, mais 27, car les Britanniques ont voulu vivre leur life après 43 ans de mariage. François Langlais, vous êtes éditorialiste économique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas heureux avec nous, les Anglais? Ils voulaient rester sur leur île?
Ils étaient de moins en
leur
moins heureux.
Leur souveraineté?
Oui, alors il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils sont anglais. Et les Anglais sont les Anglais, c'est un peuple avec une identité très marquée et le désir de défendre les particularismes. Donc le refus de se fondre dans un vaste ensemble.
Mais c'est principalement un vaste ensemble économique. Je veux dire, les Anglais restent les Anglais, les Espagnols restent les Espagnols.
C'est vrai, cela dit, les politiques communes se multipliaient.
Ouais.
Et la finalité était quand même, justement, un rapprochement de plus en plus fort entre les pays. Donc c'était une œuvre commune. Et de ce point de vue, elle heurtait, je pense, le sentiment d'identité britannique. Elle l'a toujours heurté, dès le début. Hein. Mais et dans les années 90, on était dans une période tout à fait différente, où on pensait que la mondialisation était heureuse, etc. Ça a apaisé le désir de souveraineté. Et Tony Blair, même à un certain moment, a souhaité entrer dans l'euro. Hein. On l'a oublié. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Et puis, petit à petit, la nature a repris le dessus. Et alors, au début... ceux qui disaient il faut sortir de l'Europe se heurtaient à des critiques parce que les partisans de l'Europe leur disaient mais attendez, c'est aussi compliqué que de refaire des œufs à partir d'une omelette, c'est pas possible, tellement les liens sont intriqués. Il y a d'innombrables traités commerciaux qui ont été signés et il y en aurait pour des lustres de détricoter tout ça. Et puis la passion politique l'a emporté, d'abord parce qu'elle était soutenue par une vraie demande populaire, hein, et c'est intéressant de voir la carte du Brexit, du vote. Vous avez en gros toutes les régions riches qui ont voté pour rester dans l'Europe et toutes les régions pauvres ou classes moyennes tirées vers le bas qui ont voté contre. Et de ce point de vue, je refais le parallèle avec Trump, hein, c'est la même chose, c'est la même carte. Trump, ses partisans, c'était les victimes de la mondialisation, ses opposants, c'est plutôt l'élite bien connectée qui estime qu'elle a sa carte à jouer dans l'univers tel qu'il est construit aujourd'hui. C'est la même histoire. De ce point de vue, d'ailleurs, il y a aussi une similitude avec ce qui s'est passé chez nous un peu plus tard, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, Trump, le Brexit, c'est la même histoire. C'est l'histoire de gens qui se sentent malmenés par le monde moderne parce qu'ils ont le sentiment que les décisions qu'ils souhaitent ne sont pas prises et qu'elles sont prises même sur leur dos, contre leur intérêt. Ça, je pense que c'est la raison fondamentale. Après, il y a des considérations politiques britanniques. Vous avez évoqué le rôle de Cameron là-dedans. Les partisans du Brexit ont aussi fait une campagne, une bonne campagne, outrancière, parfois un peu mensongère. Vous savez, il y avait notamment une anecdote qui circulait, qui était rapportée dans la presse britannique au moment de la campagne. Comme on le sait, les Anglais aiment le thé. Tous les soirs à 5 heures, on prend la bouilloire électrique qu'on branche et puis on fait bouillir de l'eau pour pouvoir faire du thé. Et les partisans du Brexit ont expliqué que les normes européennes allaient interdire dans les mois qui allaient venir ces bouilloires parce que la consommation d'électricité était trop importante au même moment à 17h et que du coup ça risquait de faire sauter le réseau électrique européen. C'est évidemment une vaste blague, mais ça a porté parce que là aussi ça semblait atteindre le fondamental de l'identité britannique.
La fameuse cup of tea de 17h. En même temps, les anti-Brexit disaient que ça allait être une catastrophe pour l'Angleterre. Donc c'était quoi leurs arguments?
Je me souviens d'une étude publiée par le Trésor britannique qui disait ça va être la récession terrible et si on sort de l'Europe, l'Angleterre va disparaître, engloutie, etc. C'était tout aussi bête que la campagne des des Brexiteurs qui disaient c'est le pays de cocagne qui nous attend. La réalité, alors à l'époque, il y a une formule de Jean-Louis Bourlange qui était assez bonne au moment de tout ça. Il disait, bon, calmons-nous. Au fond, quand les Britanniques étaient dans l'Union Européenne, ils avaient un pied dedans, un pied dehors. Demain, après le Brexit, ça sera l'inverse.
Ouais.
Bon, et autrement dit, ils ne s'éloigneront jamais véritablement de l'Europe. Rétrospectivement, Bourlange était sans doute un petit peu optimiste, parce que je crois qu'il y a véritablement un éloignement britannique qui ne fait que commencer.
Qui ne fait que commencer, on verra un petit peu plus tard justement comment ça se passe aujourd'hui. En tout cas, le référendum, il a eu lieu le 23 juin 2016. On va revenir sur tout le long parcours des négociations. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après le référendum ? Il a fallu se mettre au boulot, parce que c'était bien de dire on veut sortir, mais enfin, faut mettre en place quand même un plan de sortie.
Oui. Impréparation totale du côté britannique.
Ah, total. Alors.
Parce
et pourtant,
que...
pourtant il... on avait Theresa May qui était première ministre et qui.
Alors à l'époque, c'est Cameron, hein, mais oui. Il n'y croit tellement pas qu'il ne prépare pas cette issue.
Oui, c'est ça.
Ça semble complètement improbable. Et il perd le pouvoir. Theresa May arrive. Premier ministre de très grande qualité. Hein.
Ouais.
Injustement méprisé, qui a été tué par Boris Johnson
ouais,
et ses coups politiques de premier plan. Theresa May, c'est la première qui dit « Brexit means Brexit
okay. ».
Autrement dit, parce qu'il y avait une idée qui circulait. « Oh, ils n'iront pas jusqu'au bout ». Et au fond, exactement comme nous, Français, avons voté contre l'Europe en 2005 et finalement, ça n'a pas changé grand-chose, ça sera la même chose au Royaume-Uni. Elle dit « Non ». Le peuple a voté. Donc, il faut qu'on se prépare. Et là, l'administration se met au boulot.
Donc, c'est elle qui a été le premier artisan concret de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
Elle a mis en place une équipe de négociateurs extrêmement ferrés, d'ailleurs, qui a bataillé avec les équipes de Michel Barnier.
Ça n'a pas été la joie. Hein.
Ouais.
Ça n'a pas été la joie. On va revenir sur ce long parcours. Mais en tout cas, le 29 mars 2017, il y a le journaliste Jérôme Florin qui évoque une photo historique, une photo de rupture.
Photo publiée dans la soirée par Downing Street, on y voit Theresa May penchée sur son bureau. La chef du gouvernement britannique signe la lettre qui va activer le fameux article 50, celui du divorce avec l'Union européenne. C'est cette lettre qui sera remise tout à l'heure à la mi-journée à Bruxelles et qui enclenchera très officiellement le Brexit.
Et là, ça y est, c'est enclenché. Donc c'est le début. Beaucoup de boulot pour Theresa May pour un long divorce qui aura pris des années. On vous raconte pourquoi les négociations avec des coups de théâtre, des coups bas de Boris Johnson, des coups de théâtre. Ce sera dans un instant dans Jour J, à tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
C'est l'histoire d'une laborieuse séparation qui aura agité l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est l'histoire du Brexit que l'on vous raconte ce soir dans Jour J. L'occasion aussi pour nous tous de mieux comprendre de quoi il s'agit. Déjà, François Langlais, vous qui êtes notre invité, qui arbitre un tel divorce ? Parce qu'il y a quand même 43 années de mariage. Donc il faut avoir un bon juge, vous voyez ce que je veux dire ?
La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre, pas de juge.
Ça doit être à l'amiable.
On est obligé de s'entendre.
Ah bah dis donc.
Sur un traité qui, évidemment, compte tenu de la nature des sujets concernés, innombrable, hein, de la taille des œufs jusque aux normes techniques pour les ponts qui traversent les rivières, tout ça et toutes ces normes-là, elles existent en Europe, donc
oui,
il faut tout détricoter.
Autrement plus compliqué que le service de la grand-mère, quoi.
Beaucoup plus.
Voilà.
Et de ce point de vue, c'est ça qui a été si long à faire pendant ces années, c'est de se mettre d'accord sur tous ces points-là. Sachant que les Britanniques, en gros, voulaient partir de l'Europe tout en gardant les mêmes avantages, c'est-à-dire la possibilité d'exporter sans contrainte leurs produits en Europe parce que c'est le premier marché à portée de fusil, et que les Européens disaient, les copains, non. Un, vous n'aurez pas les mêmes privilèges. Deux, il va falloir payer maintenant des dizaines de milliards d'euros parce que vous êtes engagés sur des dépenses qu'on a programmées ensemble pour jusque dans les années 2030. Voilà l'addition. Donc on part de là avec deux positions extrêmement éloignées et les équipes travaillent nuit et jour. Il y a des séances interminables de négociations avec des ruptures parce que tout ça pose d'innombrables problèmes techniques, on l'a dit, mais il y a un problème par-dessus tout, qui complique beaucoup la situation, c'est la question des frontières. En fait, si le Royaume-Uni s'en va, il faut que les frontières soient contrôlées. Le Royaume-Uni y tient, et l'Europe y tient aussi. L'Europe y tient surtout pour les produits. Imaginez que le Royaume-Uni, demain, passe un accord avec un pays qui fabrique des poulets aux hormones. Les poulets aux hormones arrivent au Royaume-Uni, et puis, paf, ils traversent la frontière, ils arrivent chez nous, alors que nous les interdisons. Ça n'était évidemment pas possible pour des questions de sécurité alimentaire. Donc, il faut marquer les frontières, mais, en fait, dans le Royaume-Uni, il y a l'Irlande du Nord, qui est un petit morceau de l'île irlandaise. Au sud se trouve une république autonome qui, elle, appartient toujours à l'Europe. Donc, en bonne logique, il aurait fallu marquer la frontière entre les deux Irlandes. On ne peut pas le faire pour des raisons liées à la guerre entre les deux Irlandes, qui a fait 3500 morts, entre deux Irlandes qui ont des religions différentes. Et donc, on hésite toujours entre deux solutions, laisser les frontières ouvertes avec des contrôles aléatoires, ou au contraire marquer les frontières au risque de redéclencher la guerre en Irlande.
Mais comment ça se passait? Parce que les Anglais, ils devaient d'abord se mettre d'accord entre eux et proposer ensuite un projet aux membres de l'Union européenne. Est-ce que ça venait des Britanniques? Ou est-ce que c'était de la négo permanente sur
c'est
les différents
question.
Sujets?
C'est une question. Il y a les deux, honnêtement. Il y a le principal problème est quand même entre les Britanniques et les Européens. Mais c'est vrai qu'au sein des Britanniques eux-mêmes, il y a des dissensions.
Ouais.
Et notamment les élus de ce petit territoire d'Europe du Nord, qui ce qu'on appelle les unionistes, qui ne veulent pas être séparés de la mère patrie, c'est-à-dire de la grande île britannique. Donc ils disent, mais attendez, nous on fait un tout avec le Royaume-Uni, il n'est pas question de nous associer à l'Union européenne.
Donc, ça coince très rapidement, parce que je récapitule pour ceux qui nous écoutent, pour bien comprendre effectivement la chronologie. 2016, on vote le Brexit. Mars 2017, on enclenche le processus de sortie. Dès le départ, on l'a compris, c'est compliqué. Ça coince à tel point que 2 ans plus tard seulement, le 29 mars 2019, il y a Theresa May qui essuie un troisième camouflé consécutif.
Devant le Parlement, il y a quelques centaines de pro-Brexit qui commencent à en avoir ras le chapeau melon. On ne s'énerve pas encore, hein. Pas d'émeute, on reste british, mais on sent que la tension monte. C'est vrai que les parlementaires n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur une solution, même en ce jour symbolique qui aurait dû être celui de la sortie de l'Union européenne.
Donc ça veut dire que déjà le 29 mars 2019, c'était l'objectif. Sortir. Mais on y est encore. Et François Langlais, il faut préciser aussi que cette fois-ci, la Première ministre avait mis sa démission dans la balance. Et ce qui devait arrivé, arriva le 24 mai 2019.
Elle l'a annoncé au bord des larmes, broyée par le Brexit. Theresa May s'est résignée à démissionner.
La première ministre britannique quittera ses fonctions le 7 juin prochain sans avoir réussi à mettre en œuvre son accord de Brexit. Emmanuel Macron appelle à une clarification rapide et l'on s'interroge. Alors que le feuilleton du Brexit s'éternise, le départ de Theresa May va-t-il simplifier les choses?
Alors, c'est la question. Le départ de Theresa May va-t-il changer quelque chose? Vous nous avez expliqué tout à l'heure, François Langlais, que elle avait subi aussi les coups bas d'un certain Boris Johnson, le décoiffant et décoiffé Boris Johnson, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères de Theresa May, justement, donc il la connaissait bien, ancien maire de Londres, grand partisan du Brexit, célèbre pour ses saillies verbales et pour ses cravates. Donc qu'est-ce qu'il lui a fait pendant ce temps-là, Boris Johnson?
Il a tiré le tapis chaque fois qu'il a pu.
Ah oui.
Et c'est là où, si vous voulez, il y a bien eu une interaction entre des bisbilles politiques proprement britannique, et puis les dissensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais ce qui a été déterminant, c'est bien sûr la scène politique britannique. Johnson voulait sa peau depuis toujours.
Donc il a allumé des feux, quoi.
Oui, bien sûr. Et il a justement soufflé sur les braises au sein de la majorité, de façon à lui faire perdre le consensus dont elle avait besoin pour faire passer son accord. Mais d'un certain côté, si vous voulez, il fallait qu'il y en ait une qui échoue pour que l'autre réussisse.
Mmh.
Et de ce point de vue, elle a été un peu sacrifiée. Parce que, après son départ, d'abord, il y a eu une victoire éclatante de Boris Johnson aux élections qui ont suivi. C'est un manœuvrier de premier plan. Donc ça, il a une majorité très confortable. Ça l'a aidé. Et ça a permis qu'on avance, qu'on progresse. Les négociations ont véritablement fait un bond à ce moment-là.
Est-ce que vous pensez que Theresa May aurait pu vraiment réussir si on l'avait laissée travailler? Parce qu'on parle d'une femme broyée par le Brexit.
C'est sûr qu'elle aurait pu réussir, ouais. C'est sûr.
Est-ce qu'elle a essuyé les plâtres pour, à un moment donné, aussi permettre à Boris Johnson d'arriver?
Tout à fait. Tout à fait. Elle a été sacrifiée par l'histoire, en quelque sorte.
Ouais.
Avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de noblesse, et en ayant rénové profondément la doctrine économique du Parti conservateur. Donc, ça n'a pas été inutile, mais c'était un sacrifice.
Alors, Boris Johnson, il arrive avec des grandes ambitions et un ton autrement plus vindicatif quand même que Theresa May. Il est moins diplomate, on va dire ça comme ça. Il évoque même le no deal. Ça veut dire quoi, le no deal?
Pas d'accord. C'est-à-dire que on s'en fiche, on s'en va.
On se casse quoi qu'il arrive.
Oui, quoi qu'il arrive.
Mais quelles que soient les conséquences?
Quelles que soient les conséquences. C'était une option folle. Parce que ça aurait voulu dire que du jour au lendemain, les frontières étaient véritablement fermées. Alors que des usines automobiles au Royaume-Uni sont alimentées de façon quotidienne par des millions de pièces détachées qui arrivent du continent. Donc tout ça, ce serait arrêté du jour au lendemain. Donc c'était...
Il a joué quoi, le point de rupture?
Oui, c'était la politique du pire, si vous voulez. Parce que ça aurait eu aussi des conséquences sur l'Union européenne, et notamment en France, qui est le pays limitrophe. Donc que nous aussi, on a des interactions très nourries avec le Royaume-Uni. Donc, on aurait subi aussi probablement un contre-coup en termes de croissance négative important.
Est-ce que ça aurait pu être, le début d'un conflit économique, voire pire? Enfin, est-ce que c'est quelque part une déclaration de guerre à l'Union européenne?
Ça aurait été un conflit très important. Je pense pas qu'on puisse aller au-delà d'un conflit économique, mais les relations se seraient envenimées de façon dramatique.
Boris Johnson, on va y revenir dans un instant, car effectivement, on entame avec lui la dernière phase de négociation. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive à jour J. On vient de quitter nos amis britanniques avec un nouveau Premier ministre, Boris Johnson, bien décidé à sortir son pays de l'Union européenne. Il a pris ses fonctions le 24 juillet 2019. 24 juillet 2019 et trois mois plus tard, nous sommes le 17 octobre.
We have a deal.
Et c'est bon ça, enfin, we have a deal. Et l'information fait la une du journal d'RTL.
C'est donc l'image du jour. En fin de matinée, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, sont apparus côte à côte à Bruxelles. Un accord venait enfin d'être trouvé pour organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Alors là, François Langlais, tout le monde respire. D'autant que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, précise qu'il n'y a pas besoin de prolongation, qu'il s'agit, je le cite, d'un accord juste et équilibré. Et si Juncker regrette néanmoins cette sortie, eh bien du côté britannique, Boris Johnson ne cache pas sa satisfaction.
Je pense que c'est un bon accord pour l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous pouvons offrir un vrai Brexit. Cela veut dire que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre.
Un divorce qui sera entériné donc, comme il vient de le dire, le 31 octobre 2019, sauf que, comme dirait Thomas Soto...
On parle de l'Europe et de l'Arlésienne, parce que le Brexit, c'est l'Arlésienne.
Oui, ça dure, c'est vrai, Thomas. Les 27 pays de l'Union européenne ont donné ce matin leur feu vert pour une troisième date butoir. Le Royaume-Uni, qui avait fait jusqu'au 31 octobre, vous le savez, c'était la date, le 31 octobre, pour sortir de l'Europe. Eh bien, il a désormais jusqu'au 31 janvier 2020 un nouvel épisode dans ce feuilleton interminable.
Qu'est-ce qui s'est passé, François Langlais? Parce que là, on y croyait, on se disait, ça y est.
En fait, les Anglais sont revenus sur leur parole. Comme très fréquemment avec Boris Johnson, qui est complètement inconséquent, intempérant, imprévisible. Et ça continue maintenant, aujourd'hui même. Alors même qu'il se félicitait de l'accord, on vient de l'entendre, aujourd'hui il explique qu'il n'est pas tenable, compte tenu des difficultés de frontières de l'Irlande que j'évoquais tout à l'heure.
Donc, machine arrière.
On n'est même pas encore aujourd'hui dans une situation tout à fait stabilisée. L'essentiel est fait, parce que de fait, les produits britanniques circulent à peu près en Europe sous certaines réserves. Il y a quand même des déclarations de douane à remplir qui d'ailleurs, pénalise beaucoup les exportateurs britanniques. Et puis, dans l'autre sens, c'est la même chose. Mais enfin, on a quand même un cadre qu'on peut aménager. Et aujourd'hui, le gros est passé. Mais on a affaire, et Michel Barnier le racontait de façon très imagée, à une équipe qui change d'avis souvent. Parce que, au fond, d'abord, elle veut tirer le meilleur parti de tout ça. C'est normal. Mais surtout, elle est prise en tenaille par des dissensions politiques à Londres même.
Donc ça veut dire qu'en fait, Boris Johnson, il a réussi son pari, c'est-à-dire qu'il est à peine arrivé au pouvoir que trois mois après, oui. We have a deal, oui. Mais qu'en réalité, il n'était pas prêt. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est un coup de bluff de la part de Boris Johnson pour comprendre?
Oui, je pense que c'est une stratégie de négociation, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'on a un accord pour finalement faire remonter la pression et obtenir d'ultimes concessions.
Mais donc, quelque part, il a mis un peu l'Union européenne à genoux, c'est-à-dire qu'ils ont conclu un accord sur lequel les Britanniques reviennent régulièrement, ou en tout cas, c'est OK, d'accord, je t'épouse, mais on verra les conditions après.
Oui,
quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pas fini, je pense que cette histoire irlandaise peut encore envenimer les choses pendant assez longtemps, parce que, du point de vue britannique, ça n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que les produits qui arrivent du Royaume-Uni et qui viennent en Irlande du Nord, normalement, c'est le même pays, eh bien, ils sont sujets à des contrôles potentiels. C'est comme si finalement, les Irlandais du Nord étaient des étrangers de l'intérieur au Royaume-Uni. Donc ça pose des problèmes aux Britanniques et ils souhaitent revenir dessus.
Mais ça, c'est le problème entre l'Irlande et les Britanniques.
Enfin, c'est exactement ce que dit l'Union européenne.
Voilà. Et l'Union européenne. Je devrais y être. Débrouillez-vous entre vous.
Débrouillez-vous.
D'accord.
Mais les Britanniques ne l'entendent pas de cette oreille. Ça s'est un petit peu calmé avec les difficultés politiques de Boris Johnson. Aujourd'hui, il n'est plus en position de faire levier de quoi que ce soit. Mais ça va peut-être changer. Encore une fois, faut rappeler qu'il a une très forte majorité, donc il n'est pas du tout pressé de faire des élections. Il n'y a guère que si son propre camp conservateur décidait de le ficher dehors, un peu d'ailleurs comme et il avait fichu dehors Theresa May à sa propre initiative, qu'il serait contraint de partir.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va parler donc de l'Union européenne aujourd'hui, des Britanniques aujourd'hui. Et puis on va se demander si ça a donné des idées à d'autres pays d'Europe qui souhaiteraient partir. À tout de suite sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui vous apprend tout sur le Brexit ce soir, et c'était le 31 janvier 2020.
Cette fois nous y sommes, Isabelle. Après 47 ans de mariage et 3 ans de déchirement, le Royaume-Uni quitte l'Europe.
Et oui, ce soir à minuit, il va falloir se dire au revoir. Pas de grands changements à attendre dans l'immédiat. C'est une période de transition de 11 mois qui débute, mais symboliquement, c'est une journée importante. Ce soir, il y aura mousseux anglais au 10 Downing Street.
Et si certains boivent du mousseux, bye bye UA, il y en a d'autres qui cry des rivers.
C'est très moche. Si c'est ça la Grande-Bretagne qui nous attend, alors cela me rend extrêmement triste. C'est effrayant, c'est du nationalisme. Dans 3 à 5 ans, les gens vont beaucoup regretter. Ils vont réaliser qu'ils se sont trompés de chemin. Nous voulons faire partie de l'Europe depuis le référendum. L'opinion a changé. La majorité du peuple veut rester dans l'Europe. Alors nous reviendrons, nous frapperons gentiment à la porte.
Alors, François Langlais, plusieurs choses après les archives que l'on vient d'entendre. Vous nous avez expliqué il y a un instant que Boris Johnson avait signé avec l'Union européenne un accord de sortie du Royaume-Uni et finalement était revenu aussi sur certains points qui faisaient partie de cet accord. Et pourtant, le 31 janvier 2020, on l'a entendu, ça a été acté. Est-ce qu'on peut faire machine arrière ?
Normalement, non. Mais on peut verbalement en menacer l'autre partenaire. Après, évidemment, ça se règle. Je ne sais pas, devant des cours internationales, j'en sais rien. Mais de fait, c'est ce qu'il a fait il y a quelques semaines. Il a dit, moi cet accord ne me va pas, il faut l'aménager. Donc on est toujours en insécurité relative.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'on est en insécurité, on est comme si finalement un accord n'avait pas été signé, alors que c'est le cas.
Oui, alors c'est, plus c'est le temps passe, bizarre. Si vous voulez, plus ça va être difficile pour Johnson de revenir en arrière. Parce qu'au fond, la réalité économique du Royaume-Uni, elle n'est pas mauvaise. Contrairement à ce que disaient d'ailleurs les partisans du Remain, donc ceux qui voulaient rester dans l'Union Européenne, le pays a une croissance tout à fait honnête, à peu près. Il est revenu à son
Est-ce
niveau
d'avant crise.
Est-ce
que c'est même mieux ?
Non, ça n'est pas mieux, ça n'est pas pire. Mais on peut penser quand même qu'avec un gouvernement déterminé sur le long terme et qui a une vraie stratégie économique, il y a un avenir relativement prospère pour le Royaume-Uni en dehors de l'Europe. Ça sera tout autre chose, mais c'est pas un pays qui va disparaître du tout.
On vient d'entendre une jeune Britannique qui dit bon, de toute façon, les Anglais se sont rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commise en votant pour au référendum en 2016. Les Anglais reviendront frapper à la porte de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, de possible ?
Pas du tout, j'y crois pas une seconde. Je pense que voilà, c'est fait, et au fond, justement, comme ça n'est pas la catastrophe annoncé, il n'y aura pas du tout d'initiative de ce genre. Mais ce qui peut se passer quand même, c'est les tensions politiques avec l'Écosse. Mmh. Ça, c'est vrai. L'Écosse, qui a une certaine autonomie, elle est pro-européenne, et elle avait dit, si la situation se complique pour nous, nous allons faire sécession et demander notre retour dans l'Union européenne. Ça, là, politiquement, techniquement, juridiquement, ça n'est pas impossible. Ça serait la catastrophe pour le Royaume-Uni, parce que là, ça serait la rupture d'un ensemble qui a plusieurs centaines d'années. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Les dirigeants écossais veulent un référendum sur l'autodétermination. Donc ça serait la première étape. Ça sera en tout cas un long processus. D'ici là, si les relations s'apaisent et que, justement, le commerce à la fois intellectuel, commercial, financier entre les deux ensembles est paisible, on peut penser que ces tentations centrifuges s'apaiseront.
Est-ce que les Britanniques peuvent être suivis par d'autres nations ? Est-ce que ça peut donner des idées à d'autres pays ?
Oui, il y a le pays le plus avancé, si je puis dire, sur cette route, c'est la Pologne. Pour d'autres raisons, qui remet en cause justement la prééminence du droit européen et qui veut faire prévaloir sa propre constitution. Bon, il y a une partie de l'opinion publique polonaise qui souhaiterait ça, c'est pas majoritaire. Donc on peut penser quand même que finalement, cette histoire, c'est la victoire de la géographie. Mmh. La Manche existe, mais entre la Pologne et l'Allemagne, il y a, si ma mémoire est bonne, la ligne Oder-Neisse, mais pour autant, c'est quand même le même monde. Hein. Et puis là aussi, il y a des interactions économiques extrêmement étroites. La Pologne est devenue vraiment l'arrière-cour industriel de l'Allemagne. On pourrait imaginer une Pologne indépendante qui continue à sous-traiter pour l'industrie automobile allemande, mais c'est un peu plus compliqué.
Si le Royaume-Uni va bien aujourd'hui économiquement, a retrouvé sa santé d'avant la crise, est-ce que le départ du Royaume-Uni a eu une incidence sur la santé de l'Union européenne ?
Sur la santé économique, je dirais non, mais ça a changé des choses. Ça a changé quelque chose en bien, contrairement à ce que je pensais. Je crois que le plan de relance que nous avons connu l'été dernier pour lutter contre la pandémie n'aurait jamais été possible du temps des Britanniques. Parce que, un, les Britanniques s'y seraient opposés. L'idée de mutualiser une dette, alors là, ils y sont réfractaires absolument. Donc, ils auraient fait ce qu'ils ont fait sur le Brexit, ça aurait duré des années. Ou ce qu'ils ont fait sur le marché unique, ça a duré des années aussi. Et puis, surtout, ça a donné, et notamment en Allemagne, le sentiment qu'il fallait que l'Europe s'intègre davantage pour prévenir les tentations sécessionnistes. Et Merkel, là-dessus, a vraiment changé dans la dernière année de son mandat. Et je crois que le Brexit, comme d'ailleurs l'arrivée de Trump, qui refusait la protection américaine à l'Europe et qui a multiplié les déclarations agressives au plan commercial vis-à-vis de l'Allemagne, tout ça a joué pour faire pencher Merkel du côté de la mutualisation des dettes. Donc ça a indirectement favorisé l'intégration européenne. Le mauvais côté de la chose, c'est pour la défense. La défense européenne, en fait, en Europe, il n'y a que deux pays qui ont une idée un peu planétaire de leurs ambitions. C'est la France et le Royaume-Uni, pour des raisons historiques. Ça a été deux empires. Mmh. Hein. C'est ces deux pays-là, qui sont d'ailleurs au Conseil de sécurité de l'ONU, ce sont ces deux pays-là qui ont une défense solide, ce sont les deux seuls. Hein. Et de ce point de vue, notre partenaire naturel pour organiser une défense européenne, ce sont les Britanniques. Il y a d'ailleurs des coopérations industrielles très très poussées. Ça va être plus compliqué maintenant, c'est dommage.
C'est quoi l'avenir de l'Union européenne, selon vous ?
Écoutez, je pense que on s'oriente quand même à moyen terme vers différents cercles. On peut imaginer que l'intégration va se poursuivre avec les pays fondateurs et probablement quelques autres qui sont contents de leur situation et qui souhaiteraient être arrimés à ce bloc-là, mais que sur toute une série de pays périphériques au plan géographique, culturel ou économique, on en trouvera des accords d'association un peu plus souples. C'est la conséquence du fait d'avoir élargi de façon extrêmement brutale. On l'a fait au moment de la chute du mur. Et Delors disait, je me souviens, il me l'a dit à l'époque, l'élargissement brutal, ça n'est pas une bonne solution, mais nous n'avons pas le choix. Parce que ces pays sortent de l'orbite soviétique, c'était après l'effondrement du bloc communiste, sinon ils sont comme des bouchons qui flottent sur l'eau, il faut les arrimer au camp démocratique.
Merci beaucoup François Langlais.
Merci à vous.
Pour ce cours sur le Brexit. Mmh. On n'hésitera pas à vous rappeler parce que vous avez votre carte d'abonné à Georgie.
J'en suis fier.
Merci à vous et je conseille votre livre « Quoi qu'il en coûte » aux éditions Albin Michel. Merci.